Spinoza, Éthique, partie 4, appendice. Fichier 16. Ce que j'ai exposé dans cette partie sur la conduite droite de la vie n'a pas été disposé de façon qu'on le pût voir d'ensemble, mais a été démontré par moi dans l'ordre dispersé où la déduction successive de chaque vérité se faisait le plus facilement. Je me suis donc résolu à la rassembler ici et à le résumer en chapitres principaux. Chapitre 1. Tous nos efforts ou désirs suivent de la nécessité de notre nature, de façon qu'ils se puissent connaître, ou par elles seules comme par leur cause prochaine, ou en tant que nous sommes une partie de la nature qui ne peut être conçue adéquatement par elle-même sans les autres individus. Chapitre 2. Les désirs, qui suivent de notre nature de façon qu'ils se puissent connaître par elles seules, sont ceux qui se rapportent à l'âme en tant qu'on la conçoit comme composée d'idées adéquates. Pour les autres désirs, ils ne se reportent à l'âme qu'en tant qu'elle conçoit les choses inadéquatement. Leur force et leur croissance doivent être définies par la puissance non de l'homme, mais des choses extérieures. Par suite, les premiers désirs sont appelés action droite, les seconds passion. Les uns en effet sont des marques de notre puissance, les autres au contraire de notre impuissance et d'une connaissance mutilée. Chapitre 3. Nos actions, c'est-à-dire ces désirs qui sont définis par la puissance de l'homme ou la raison, sont toujours bonnes. Les autres désirs peuvent être aussi bien bons que mauvais. Chapitre 4. Il est donc utile avant tout dans la vie de perfectionner l'entendement ou la raison autant que nous pouvons. Et en cela seul consiste la félicité suprême ou béatitude de l'homme. Car la béatitude de l'homme n'est rien d'autre que le contentement intérieur de lui-même, lequel naît de la connaissance intuitive de Dieu. Et perfectionner l'entendement n'est rien d'autre aussi que connaître Dieu et les attributs de Dieu et les actions qui suivent de la nécessité de sa nature. C'est pourquoi la fin ultime d'un homme qui est dirigé par la raison, c'est-à-dire le désir suprême par lequel il s'applique à gouverner tous les autres, est celui qui le porte à se concevoir adéquatement et à concevoir adéquatement toutes les choses pouvant être pour lui objet de connaissances claires. Chapitre 5. Il n'y a donc point de vie conforme à la raison sans la connaissance claire. Et les choses sont bonnes dans la mesure seulement où elles aident l'homme à jouir de la vie de l'âme qui se définit par la connaissance claire. Celle qui, au contraire, empêche que l'homme ne perfectionne la raison et ne jouisse d'une vie conforme à elle, celles-là seules, nous disons qu'elles sont mauvaises. Chapitre 6. Puis donc, que tout ce que dont l'homme est cause efficiente est nécessairement bon. Rien de mauvais ne peut arriver à l'homme, si ce n'est de causes extérieures. Je veux dire, en tant qu'il est une partie de la nature entière, aux lois de qui la nature humaine doit obéir et à qui elle est contrainte de s'adapter d'une infinité presque de manières. Chapitre 7. Il est impossible que l'homme ne soit pas une partie de la nature et n'en suive pas l'ordre commun. Si cependant il vit parmi des individus tels que leur nature s'accorde avec la sienne, par cela même sa puissance d'agir sera secondée et alimentée. Si au contraire il se trouve parmi des individus tels qu'il ne s'accorde nullement avec sa nature, il ne peut guère s'adapter à eux sans un grand changement de lui-même. Chapitre 8. Tout ce qu'il y a dans la nature que nous jugeons qui est mauvais, autrement dit, que nous jugeons capable d'empêcher que nous ne puissions exister et jouir d'une vie conforme à la raison, il nous est permis de l'écarter par la voie paraissant la plus sûre. Tout ce qu'il y a, au contraire, que nous jugeons qui est bon ou utile à la conservation de notre être et à la jouissance de la vie conforme à la raison, il nous est permis de le prendre pour notre usage et de nous en servir de toute façon. Et absolument parlant, il est permis à chacun, suivant le droit suprême de la nature, de faire ce qu'il juge devoir lui être utile. Chapitre 9. Rien ne peut mieux s'accorder avec la nature d'une chose que les autres individus de même espèce. Il n'y a donc rien de plus utile pour la conservation de l'être propre et la jouissance de la vie conforme à la raison qu'un homme dirigé par la raison. En outre, puisque, parmi les choses singulières, nous ne savons rien qui ait plus de prix qu'un homme dirigé par la raison, personne ne peut mieux montrer ce qu'il vaut par son habileté et ses aptitudes qu'en élevant des hommes de façon qu'ils vivent enfin sous la propre souveraineté de la raison. Chapitre 10. Dans la mesure où les hommes sont animés les uns contre les autres d'envie ou de quelque affection de haine, ils sont contraires les uns aux autres, et par suite, d'autant plus à craindre que leur pouvoir est plus grand que celui des autres individus de la nature. Chapitre 11. Les cœurs ne sont cependant pas vaincus par les armes, mais par l'amour et la générosité. Chapitre 12. Il est utile aux hommes avant tout d'avoir des relations sociales entre eux, de s'astreindre et lier, de façon qu'ils puissent former un tout bien uni et absolument de faire ce qui peut rendre les amitiés plus solides. Chapitre 13. De l'art et de la vigilance, toutefois, sont pour cela requis. Les hommes, en effet, sont divers, rares ceux qui vivent suivant les préceptes de la raison, et cependant envieux pour la plupart, plus enclins à la vengeance qu'à la miséricorde. Pour les accepter tous avec leur complexion propre et se retenir d'imiter leurs affections, il est besoin d'une singulière puissance sur soi-même. Ceux qui, d'ailleurs, s'entendent à censurer les hommes et à flétrir leurs vices, plus qu'à enseigner les vertus, à briser les âmes au lieu de les fortifier, sont insupportables à eux-mêmes et aux autres. Beaucoup, par suite, trop peu capables de patience et égarés par un zèle prétendu religieux, ont mieux aimé vivre parmi les bêtes que parmi les hommes. Ainsi, des enfants et des adolescents, ne pouvant supporter d'une âme égale les reproches de leurs parents, se réfugient dans le service militaire. Ils préfèrent les peines de la guerre et le pouvoir sans contrôle d'un chef aux douceurs de la vie de famille avec les remontrances paternelles et acceptent docilement quelque fardeau que ce soit pourvu qu'ils se vengent de leurs parents. Chapitre 14. Encore que les hommes se gouvernent en tout, le plus souvent suivant leur appétit sensuel, la vie sociale a cependant beaucoup plus de conséquences avantageuses que dommageables. Il vaut donc mieux supporter leurs offenses d'une âme égale et travailler avec zèle à établir la concorde et l'amitié. Chapitre 15. Ce qui engendre la concorde se ramène à la justice, à l'équité et à l'honnêteté. Les hommes, en effet, supportent mal, en outre, l'injuste et l'inique, ce qui passe pour vilain, et ne souffrent pas que l'on fasse fi des coutumes reçues dans la cité. Pour gagner l'amour, est avant tout nécessaire ce qui se rapporte à la religion et à la moralité. Voir à ce sujet Scoli 1 et 2 de la proposition 37, Scoli de la proposition 46 et Scoli de la proposition 73. Chapitre 16. La concorde est encore engendrée par la crainte, mais sans bonne foi. De plus, la crainte tire son origine de l'impuissance de l'âme et n'appartient donc pas à l'usage de la raison. Il en est de même de la commisération, bien qu'elle ait l'apparence extérieure de la moralité. Chapitre 17. Les hommes sont encore conquis par les largesses, ceux-là surtout qui n'ont pas de quoi se procurer les choses nécessaires à leur subsistance. Porter secours, toutefois, à chaque indigent, cela dépasse de beaucoup les forces et l'intérêt d'un particulier. Ces richesses ne sauraient à beaucoup près y suffire, et la limitation de ses facultés ne lui permet pas de se rendre l'ami de tous. Le soin des pauvres s'impose donc à la société entière et concerne seulement l'intérêt commun. Chapitre 18. Dans l'acceptation des bienfaits et les témoignages de reconnaissance à donner, de tout autre soin sont nécessaires. Voir sur ce sujet Scoli de la proposition 70 et Scoli de la proposition 71. Chapitre 19. L'amour sensuel, c'est-à-dire l'appétit d'engendrer qui naît de la beauté, et en général tout amour ayant une autre cause que la liberté de l'âme se change facilement en haine, à moins, chose pire, qu'il ne soit une espèce de délire, auquel cas la discorde plus que la concorde est alimentée. Voir Scoli de la proposition 31, partie 3. Chapitre 20. Pour le mariage, il est certain qu'il s'accorde avec la raison, si le désir de l'union des corps n'est pas engendré seulement par la beauté, mais par l'amour de procréer des enfants et de les élever sagement. Si en outre l'amour de l'un et de l'autre, c'est-à-dire de l'homme et de la femme, a pour cause principale non seulement la beauté, mais la liberté intérieure. Chapitre 21. La flatterie encore engendre la concorde, mais avec la souillure de la servitude ou la mauvaise foi. Nul n'est plus conquis par la flatterie que l'orgueilleux, qui veut être le premier et ne l'est pas. Chapitre 22. La mésestime de soi a une fausse apparence de moralité et de religion. Et bien que la mésestime de soi s'oppose à l'orgueil, celui qui se mésestime est cependant très proche de l'orgueilleux. Voir Scoli de la proposition 57. Chapitre 23. La honte, en outre, ne contribue à la concorde qu'en ce qui ne peut rester caché, puisque, d'autre part, la honte est une espèce de tristesse, elle ne concerne pas l'usage de la raison. Chapitre 24. Les autres affections de tristesse, dirigées contre des hommes, sont directement opposées à la justice, à l'équité, à l'honnêteté, à la moralité et à la religion. Et, bien que l'indignation ait l'apparence de l'équité, il n'y a pas de loi réglant la vie où il est permis à chacun de porter un jugement sur les actes d'autrui et de venger son droit ou celui d'autrui. Chapitre 25. La modestie, c'est-à-dire le désir de plaire aux hommes, quand la raison le détermine, se ramène à la moralité, comme nous l'avons dit dans le Scoli 1 de la proposition 37. Mais si elle tire son origine d'une affection, la modestie est l'ambition, c'est-à-dire un désir pour lequel les hommes, le plus souvent, excitent des discordes et des séditions sous une fausse couleur de moralité, qui en effet désire assister les autres de ses conseils ou en action pour parvenir en commun à la jouissance du souverain bien, il travaillera avant tout à gagner leur amour. non pas à se faire admirer d'eux pour qu'une discipline porte son nom, non plus qu'à donner autre motif d'envie. Dans les conversations, il se gardera de rapporter les vices des hommes et aura soin de ne parler qu'avec ménagement de leur impuissance. Amplement, au contraire, de la vertu ou puissance de l'homme et de la voie à suivre pour la porter à sa perfection. De façon que les hommes, non par crainte ou aversion, mais affectés seulement d'une émotion de joie, s'efforcent à vivre autant qu'il est en eux, suivant les préceptes de la raison. Chapitre 26. Outre les hommes, nous ne savons dans la nature aucune chose singulière dont l'âme nous puisse donner de la joie, et à laquelle nous puissions nous joindre par l'amitié ou aucun genre de relation sociale. Ce qu'il y a donc dans la nature, en dehors des hommes, la règle de l'utile ne demande pas que nous le conservions. Mais nous pouvons, suivant cette règle, le conserver pour divers usages, le détruire ou l'adapter à notre usage par tous les moyens. Chapitre 28. L'utilité qui se tire des choses extérieures, outre l'expérience et la connaissance acquise par leur observation et les transformations que nous leur faisons subir, est surtout la conservation du corps. Pour cette raison, les choses utiles sont, avant tout, celles qui peuvent alimenter le corps et le nourrir, de façon que toutes ses parties puissent s'acquitter convenablement de leur office. Plus le corps est apte, en effet, à être affecté de plusieurs manières et à affecter les corps extérieurs d'un très grand nombre de manières, plus l'âme est apte à penser. Propositions 38 et 39. Mais les choses de cette sorte semblent être très peu nombreuses dans la nature, et par suite, pour nourrir les corps, comme il est requis, il est nécessaire d'user d'aliments nombreux de natures diverses. Le corps humain, en effet, est composé d'un très grand nombre de parties de natures différentes, qui ont constamment besoin d'aliments variés, afin que tout le corps soit également apte à tout ce qui peut suivre de sa nature, et que l'âme, en conséquence, soit aussi également apte à concevoir plusieurs choses. Chapitre 28. Pour se procurer ce nécessaire, les forces de chacun ne suffiraient guère si les hommes ne se rendaient de mutuels services. L'argent est devenu l'instrument par lequel on se procure vraiment toute chose et le résumé des richesses, si bien que son image occupe d'ordinaire plus qu'aucune chose l'âme du vulgaire. On ne peut guère en effet imaginer aucune sorte de joie, sinon avec l'accompagnement comme cause de l'idée de monnaie. Chapitre 29. Cela, toutefois, n'est un vice que chez ceux qui sont en quête d'argent, non par besoin ni pour pourvoir aux nécessités de la vie, mais parce qu'ils ont appris l'art varié de s'enrichir et se font honneur de le posséder. Ils donnent bien au corps sa pâture selon la coutume, mais en cherchant à épargner, parce qu'ils croient perdu toute partie de leur avoir dépensée pour la conservation du corps. Pour ceux qui savent le vrai usage de la monnaie et règlent leur richesse sur le besoin seulement, ils vivent contents de peu. Chapitre 30. Ces choses donc étant bonnes, qui aident les parties du corps à s'acquitter de leur office, et la joie, consistant en ce qu'est la puissance de l'homme en tant qu'il est composé d'une âme et d'un corps, et secondé ou accru, tout ce qui donne de la joie est bon. L'action des choses, toutefois, n'a point pour fin qu'elles nous affectent de joie, et leur puissance d'agir n'est point réglée sur notre utilité. Enfin, la joie se rapporte le plus souvent, de façon toute spéciale, à une partie unique du corps. pour ces raisons, à moins que la raison et la vigilance n'interviennent, la plupart des affections de joie, et conséquemment aussi les désirs qui en naissent, ont de l'excès. À quoi s'ajoute que, sous l'empire d'une affection, nous donnons la première place à ce qui est présentement agréable, et ne pouvons, dans l'appréciation des choses futures, apporter pareil sentiment. Voir Scoli de la proposition 44 et Scoli de la proposition 60. Chapitre 31. La superstition, au contraire, semble admettre que le bien, c'est ce qui apporte de la tristesse, le mal ce qui donne de la joie. Mais, comme nous l'avons dit déjà, Scoli de la proposition 45, seul un envieux peut prendre plaisir à mon impuissance et à ma peine. Plus grande est la joie dont nous sommes affectés en effet, plus grande la perfection à laquelle nous passons, et plus en conséquence nous participons de la nature divine. Et jamais ne peut être mauvaise une joie réglée par l'entente vraie de notre utilité, qui, au contraire, est dirigée par la crainte et fait le bien pour éviter le mal, n'est pas conduit par la raison. Chapitre 32. Mais la puissance de l'homme est extrêmement limitée et infiniment surpassée par celle des causes extérieures. Nous n'avons donc pas un pouvoir absolu d'adapter à notre usage les choses extérieures. Nous supporterons toutefois, d'une âme égale, les événements contraires à ce qu'exige la considération de notre intérêt. Si nous avons conscience de nous être acquittés de notre office, savons que notre puissance n'allait pas jusqu'à nous permettre de les éviter, et avons présente cette idée que nous sommes une partie de la nature entière dont nous suivons l'ordre. Si nous connaissons cela clairement et distinctement, cette partie de nous qui se définit par la connaissance claire, c'est-à-dire la partie la meilleure de nous, trouvera là un plein contentement et s'efforcera de persévérer dans ce contentement. En tant en effet que nous sommes connaissants, nous ne pouvons rien appêter que ce qui est nécessaire, ni absolument trouver de contentement que dans le vrai. Dans la mesure donc où nous connaissons cela droitement, l'effort de la meilleure partie de nous-mêmes s'accorde avec l'ordre de la nature entière. Fin de la quatrième partie.